Voici le dossier de Marie-France Martel.
Salut Marie-France.
Bonjour Martin.
Juste un mot, Rock, une belle observation. Il dit ironique qu'à cause de la marche, le pont Jacques-Cartier étant bloqué, j'ai dû faire un détour de 20 minutes pour me rendre à destination. Je serais curieux de comptabiliser, les gars, la quantité de gaz à effet de serre que la marche va causer. Ce genre de réflexion. c'est ça. Alors, vous avez des informations, gênez-vous pas, il se passe des choses avec cette manif, entre autres, le reste, parce qu'il y en a d'autres également qui pullulent à gauche et à droite. 819-780-1077 pour nous jaser. Marie-France, en lien avec notre journée assez active au Palais de justice, notamment Étienne Lavoie, ce psychologue qui restera détenu pour la durée des procédures.
Voilà le juge Conrad Chapdelaine qui a rendu sa décision ce midi au Palais de justice de Sherbrooke parce qu'il considère qu'Étienne Lavoie représente un danger pour la société. Ce qu'il a rappelé, c'est que l'accusé fait face à 14 chefs qui sont liés au proxénétisme, agression sexuelle, menace, voies de fait, trafic de crack, obtention de services sexuels, des accusations qui sont très graves. Et ce que le juge a aussi dit, c'est que le fait qu'Étienne Lavoie ait des expertises comme psychologue, ça ajoute à la gravité des crimes commis. Ce qu'il dit, c'est que ces crimes consistent à exploiter finalement des victimes qui étaient fragiles, vulnérables, qu'Étienne Lavoie dominait psychologiquement, physiquement et sexuellement. Et depuis le début de l'année 2018, ce que le juge a relaté, c'est que les bris de probation s'accumulent pour Étienne Lavoie. Il a souvent brisé des conditions qui lui avaient été imposées. Il s'est retrouvé dans des lieux de consommation de drogue, de prostitution. Donc, s'il était remis en liberté, le juge a des raisons de croire qu'il pourrait possiblement récidiver. Et je vous avais indiqué, Martin, que Étienne Lavoie avait contacté une plaignante pour qu'elle demande à une autre victime déjà, pour laquelle il y a des accusations là, pour cette femme-là, de retirer sa plainte contre Étienne Lavoie. Alors le juge dit, si vous avez contacté une plaignante comme ça, si vous êtes remis en liberté, ça pourrait se reproduire. Donc, il doit demeurer derrière les barreaux et il y a des ordonnances d'interdiction de communiquer avec les trois victimes alléguées, en plus des autres plaignantes. Et le juge a dit, dans ma décision, je ne considère même pas pour l'instant les six qui risquent de s'ajouter. Il se base que sur la preuve qui est déposée. Donc, imaginez s'il y a six autres victimes là, qui s'ajoutent en termes d'accusation. Ça alourdit le dossier d'Étienne Lavoie, donc qui a accueilli la décision. En tout cas, on pouvait peut-être s'en douter, Martin, qu'il demeurait derrière les barreaux. Lui, il voulait être libéré pour aller traiter sa problématique de consommation de crack, mais il doit rester détenu. Il va revenir devant le tribunal le 5 avril.
Il y avait aussi cet ex-employé du dépanneur de Portland qui finalement plaidait coupable à une fraude.
Oui, Sengar Ngabo Twagira, lui, ce qu'il a reconnu, c'est une fraude au dépanneur Portland pendant 2 ans où il travaillait comme commis. Ça remonte entre novembre 2014 et mai 2016. Oui. Lui, ce qu'il a réussi, Ngabo Twagira, c'est de détourner les paiements de vente d'essence vers le terminal de paiement de l'Auto-Québec. Donc, prenait l'argent, s'achetait des billets de loterie pour son compte personnel qu'il réinvestissait en paris sportifs. Alors, lui pariait, entre autres, en faveur d'une victoire ou d'une défaite du Canadien. Il était certain, finalement, de gagner. Il y avait un stratagème qui faisait en sorte qu'il empochait l'argent.
Gagé d'un bord comme de l'autre,
voilà,
dans le fond.
Exact. Okay. Et c'est les propriétaires qui ont vu qu'il y avait une baisse du chiffre d'affaires là, vers l'année 2015. Ils ont commencé à avoir des doutes et ils ont fait certaines vérifications pour constater que ça remontait vers Twagira qui agissait lors de sa présence au dépanneur. Et eux chiffrent le montant de la fraude à 40 000 $ mais l'accusé dit non, moi, j'estime que c'est moins de 10 000. Alors, il y a un petit litige, un petit litige quand même, des sommes importantes
30 000 de différence.
Pour les propriétaires, oui. Donc, c'est là qu'on va discuter, essayer de s'entendre, voir la preuve qui est au dossier. Sengar Ngabo Twagira, il a été congédié en juillet 2016. Il a envoyé 5 000 $ à l'ex-employeur en s'excusant parce qu'il dit « j'avais un problème de jeu, de dépendance à cette époque-là ». Mais bref, aujourd'hui, il a admis le tout au palais de justice.
C'est loin d'être terminé les procédures concernant le père de Brompton qui aurait secoué son bébé à mort.
Oui, il revenait devant le tribunal, ce jeune homme de 19 ans. Et ce que son avocate, maître Jessica Duval, a dit aujourd'hui, c'est qu'elle a trouvé un expert qui va analyser la preuve médicale du ministère public. Donc, voir qu'est-ce qu'on a au dossier concernant le bébé qui aurait été possiblement secoué dans le secteur de Brampton en mars 2018. Donc, et l'expert a besoin de 6 à 8 semaines pour se pencher sur cette preuve médicale-là. Et la couronne, elle, Maître Joannie Saint-Pierre, dit « Moi, je suis prête à procéder. J'ai tout dévoilé, la preuve à la défense. » Maintenant, qu'est-ce qui va être constaté par l'expert en question? Est-ce qu'il y aura une contestation de cette preuve médicale? Ça reste à voir. Donc, ce père-là qu'on ne peut pas identifier, Martin, parce qu'il y avait une condition qui avait été émise pour faire en sorte qu'on ne puisse pas l'identifier pour ne pas porter préjudice aux témoins. Donc, encore impossible aujourd'hui de le nommer publiquement. Il est en liberté, mais doit respecter plusieurs conditions, dont celle de ne pas entrer en contact là, avec la mère du tout petit bébé là, qui était décédé là, dans les jours suivants les événements. Et il y avait des membres de la famille qui étaient présents aujourd'hui au tribunal. Donc, c'est reporté au 16 mai prochain.
Le père Jacques Desgrandchamps. Geste à caractère sexuel, comparution encore aujourd'hui.
C'était sa comparution au palais de justice. L'homme de 86 ans qui n'était pas présent, par contre, qui s'est fait représenter par son avocat. Ouais. Et pour Jacques Desgrandchamps, on parle de 2 chefs d'accusation, d'attentat à la pudeur et de grossière indécence sur un garçon d'âge mineur. Et ce sont des gestes commis par Jacques Desgrandchamps alors qu'il enseignait au Collège Notre-Dame des Servites d'Ayerscliff. Et selon l'accusation, on parle de gestes entre septembre 1976 et juin 1977. Alors, il a 86 ans aujourd'hui, Jacques Desgrandchamps. Il demeure à Ottawa, donc ne s'est pas déplacé aujourd'hui à Sherbrooke. Son dossier a été reporté au 14 mai. Et je vous rappelle qu'il y a un autre religieux qui enseignait à Ayerscliff, Paul McKeown, qui fait aussi face aux mêmes accusations sur un garçon d'âge mineur, lui aussi, à la fin des années 60. Mmh. Et ces deux hommes-là font partie d'une action collective au civil avec d'autres religieux qui ont enseigné à Notre-Dame des Servites. Donc, pour Jacques Desgrandchamps, ça revient au 14 mai. Et pour M. McKeown, il doit comparaître sous peu là, dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup, Marie-France.
Bienvenue.